Il est donc l'heure de retrouver l'émission Écriture dessinée en compagnie de Bruno Canard. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors, l'invité d'aujourd'hui, c'est un auteur. Ça fait longtemps que je souhaitais pouvoir présenter un entretien avec lui. Il s'appelle Antoine Bréda et il a sorti un livre il y a quelques mois maintenant qui s'appelle Les Boules. Alors, des livres sur le cinéma, il y en a quelques-uns. Et en fait, la bande dessinée a beaucoup aimé brocarder un peu l'industrie du cinéma. Et c'est ce que fait Antoine Bréda avec son livre sur le tournage d'un film qui relève tout bonnement de la série Z. Et c'est réjouissant. Nous serons donc avec Antoine Bréda autour de 14h15. Et c'est lui qui a choisi la programmation musicale de cette émission. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez entendu, Fabien est en régie. La programmation musicale, eh bien, on commencera par David Johnson, après... ça sera plutôt Paul Peña et après Pitches, pardon. Mais en anglais, se cherche beaucoup. Et donc... Quelques brèves, une principale, le festival de bande dessinée de Bastia démarre aujourd'hui même jusqu'à dimanche. C'est un festival important qui a toujours eu beaucoup d'attention pour la création, pour la bande dessinée d'auteur, pour le travail de ligne éditoriale, de plus petites structures d'édition, très grandes souvent par leur catalogue. Et l'invité d'honneur, invité surprise, eh bien c'est Luz, dont j'avais présenté récemment le Testostéror. Alors si vous ne savez pas quoi faire, c'est le moment de vous embarquer pour Bastia. Shadok. Des fois, j'ai envie d'avoir une brève simplement pour pouvoir entendre les Shadok pendant l'émission. Alors, je vais encadrer le livre d'Antoine Bréda par des livres où la question des codes, la question du langage de la bande dessinée, la façon dont les auteurs s'approprient cette écriture, eh bien, va être vraiment au cœur de ces trois livres. Commençons par le BD Epsi de Héloïse Junier pour la partie scientifique et Mademoiselle Caroline pour la partie dessin. Et le titre de cette BD Epsi, c'est « Les émotions de l'enfant, 7 jours pour mieux les comprendre ». Alors, des livres sur « J'élève mon enfant »,« Je punis mon enfant »,« Je lui mets une tarte », façon Laurence Pernault, eh bien, on peut oublier tout ça, et c'est très bien, parce que tout l'intérêt de ce livre, c'est d'utiliser un certain nombre de résultats, de recherches scientifiques, d'avoir une actualité, une actualisation des possibilités et des engagements éducatifs des parents avec leurs enfants. Et pour ça, c'est important de bien comprendre leurs expressions. Il y a vraiment eu un discours où cette approche psychologique de l'enfant était vraiment sur des bases qui dataient du début du XXe siècle. Donc 100 ans plus tard, ce serait pas mal que l'on réactualise tout ça. Dans ses émotions de l'enfant, Héloïse Junier va s'attacher à préciser, à nous donner, nous ouvrir vers un autre point de vue, notamment sur la colère, sur la punition, sur le stress. Qu'est-ce que ça représente la peur pour un enfant? Comment se fait-il qu'on puisse qualifier un enfant de monstre? Il y a comme ça un certain nombre de points, dont un qui me paraît aussi assez essentiel, c'est le droit à l'erreur pour les parents, l'intérêt parfois de s'excuser. Et il y a donc aussi des accents qui sont mis par exemple sur ce que l'on croit nécessaire de faire pour maintenir une autorité, et il y a des violences éducatives occasionnelles qui sont maintenant nommées et qui peuvent relever de cette intention de garder une autorité qui peuvent nous faire parfois déraper. Et tout l'intérêt de ce livre, c'est vraiment cette mise en perspective. Et ce n'est pas de nouveaux dogmes. Et à un moment d'ailleurs, Héloïse Junier parle des enfants de psy, de ses propres enfants, accepte même de pas forcément avoir la solution immédiate et la bonne attitude. Mais la réflexion, la compréhension de ce qui se passe dans la tête d'un enfant, eh bien, permet de construire des réactions et des attitudes beaucoup plus précises, efficaces, aimantes. Et là, c'est un point très essentiel sur souvent cette absence de tendresse, eh bien, favorise un très grand nombre de dysfonctionnements. Et les enfants sont très sensibles à la gratitude que l'on peut avoir vis-à-vis d'eux, et comme eux sont tout à fait capables de gratitude, vis-à-vis des personnes qu'ils aiment et de leurs parents. Il y a ce qui est très important dans ce livre, c'est cette utilisation d'un rapport texte-image qui est très grand, très efficace et qui va appuyer, bien sûr, le propos. Le premier, c'est l'intervention d'une personne qui a donc ses compétences théoriques, cette capacité d'analyse des différentes situations et qui va intervenir dans une famille. Et pour ça, elle va figer le moment où il y a une scène qui permettrait de pointer tel ou tel point dans la relation parent-enfant. Et le simple fait de figer la scène va lui permettre de rentrer donc dans le giron familial, d'avoir une interlocutrice qui va ainsi, qui est une des trois enfants de la famille et qui va pouvoir ainsi comprendre ce qui se passe. Et ce chemin qu'elle va faire grâce à ses interventions, ben c'est celui que les parents vont faire eux-mêmes tout au long de ce livre. Il y a l'utilisation, par exemple, de la téléportation, qui est très facile en bande dessinée. Vous faites apparaître un personnage dans une scène, c'est très simple. Le dessin le permet et il n'y a pas de justification particulière à avoir. Et là aussi, ça donne un raccourci aux situations et aux explications. Ça permet d'être direct et d'une très grande efficacité. Il y a donc à chaque fois des situations graphiques qui sont mises en œuvre, par exemple par Mademoiselle Caroline, qui est habituée tout à fait à ce type d'écriture. À un moment, elle téléporte tout le monde en Suède. On a changé de décor en deux cases et c'est parfaitement limpide et lisible tout au long de la lecture. C'est très efficace. Je ne peux pas dire que j'ai des enfants en bas âge et que ça va m'être très très utile, mais si, parce que je suis grand-père et donc automatiquement, eh ben, ça servira à un moment ou à un autre. En tout cas, ça a été une lecture très réjouissante et ça fait plaisir que tous les livres de Laurence Pernoud soient définitivement jetés aux oubliettes. tête. Les émotions de l'enfant, 7 jours pour mieux les comprendre, d'Héloïse Junier et Mademoiselle Caroline. Héloïse Junier pour les dialogues et cette partie théorique, Mademoiselle Caroline pour toute la partie mise en scène et dessin. C'est dans la collection BD Psy, Comprendre et aller mieux. C'est publié par les éditions Les Arènes. Il y a un cahier complémentaire avec des informations, mais tout est pratiquement déjà mis en scène dans la bande dessinée. Les 136 pages de ce livre sont au prix de 20 € et il a été imprimé en France. Et oui, après les Shadocks, c'est les moustiques. C'est Vincent Malone qui a signé cette virgule. Un autre livre très différent pour évoquer ce langage de la bande dessinée. Le terme de l'émission Écriture dessinée appuie sur cette notion, la façon dont les auteurs, les dessinateurs s'approprient cette utilisation conjointe du texte et du dessin mis en scène dans des unités de récit qui sont des doubles pages, sont infinies et montrent vraiment ce travail d'appropriation et comment ils personnalisent chaque œuvre. Edmond Baudouin, j'en parle régulièrement parce que c'est un auteur qui, avec son trait sensible et son écriture autobiographique, a ouvert la bande dessinée à d'autres territoires et il a plus de 80 ans aujourd'hui, il n'hésite plus à le dire dans ses albums, dans ses livres et donc il poursuit toujours cette transmission et ses interrogations sur cette écriture dessinée. Son dernier livre, Sous les arbres, est réalisé avec Aurore Bise, qui est une femme qu'il a rencontrée il y a quelques années, qui est dessinatrice également, et à partir du dessin de paysage, ils se posent des questions, l'un et l'autre, sur la façon à la fois de représenter les arbres, mais ils vont bien au-delà. Et c'est, je crois, la très grande qualité du regard et de l'écriture d'Edmond Baudouin, c'est de ne pas simplement se satisfaire de des questions que l'on va se poser pour représenter l'arbre, mais justement, de quoi cela va faire écho en soi, de devoir représenter un arbre. Et il dit, par exemple, à un moment, « Gardez une trace. Quand je vois un arbre mort, je peux lire ce qu'était sa danse dans le temps de sa vie. » C'est exactement cela que Edmond Baudouin va nourrir tout au long de ce dialogue graphique et textuel avec Aurore Bise pour exprimer tout ce qui est en jeu dans le dessin, dans la bande dessinée. Alors là, nous ne sommes pas dans une narration de bande dessinée, mais nous sommes vraiment dans un texte illustré avec Edmond Baudouin et sa calligraphie qui est dans le même geste et le même trait que ses dessins. Aurore Bise qui a aussi un dessin de paysage avec un autre geste, avec d'autres nuances et qui va le compléter donc elle aussi avec ses textes. C'est peut-être la seule réserve que j'ai sur ce livre, c'est de ne pas avoir choisi une calligraphie qui serait plus proche du dessin même de Aurore Bise, mais d'avoir choisi une sorte de police manuscrite, équivalente à une police manuscrite, mais qui garde une certaine froideur, un côté assez figé. Mais c'est une fois dépassé ça, on est vraiment aussi dans ces questionnements en tant que femme d'Aurore Bise qui va interroger à travers cette représentation du paysage, tout ce qui est en jeu au niveau émotionnel dans ces dessins de paysage. C'est un dialogue qui existe également dans les textes, et il y a vraiment des continuités d'un texte d'Edmond Baudouin à celui d'Aurore Bise, et dans la continuité, les textes d'Edmond Baudouin vont poursuivre ceux d'Aurore Bise. Il y a à quelques moments des dessins d'Aurore Bise qui vont être avec un trait de cadre autour, et puis assez rapidement, ce cadre va disparaître pour donner une forme beaucoup plus libre. Il y a des moments graphiques qui sont très intenses, comme une fusion des corps avec les arbres au moment d'évoquer la relation amoureuse, la sexualité, le plaisir, le désir, la sensualité, et cette façon de fondre les corps dans le végétal, dans l'arbre lui-même, prend une ampleur tout à fait étonnante. Un moment d'ailleurs, Aurore Bise va dire « toute catégorisation étouffe l'être » et il y a vraiment aussi dans leur dialogue une façon de préserver cette liberté en évitant toute catégorisation aussi bien de leur travail, de l'écriture, de leur lecture et de leur façon d'être. Sous les arbres d'Edmond Baudouin et Aurore Bise est publié par les éditions Six Pieds Sous Terre, et les 88 pages, je n'ai pas récupéré le prix, mais vous le trouverez très facilement. La maison d'édition Six Pieds Sous Terre, qui est basée près de Montpellier, et que l'on peut trouver à la librairie Entrée Libre, eh bien, à son site internet. Musique. Thank you. Antoine Bréda compose une œuvre libre. Avec Les Boules, il s'accapare un tournage d'un film qui s'apparente à la série Z. Pour mettre en scène nos contingences quotidiennes, nos rapports aux sentiments, les fantasmes de nos réussites artistiques. Une mise en perspective, finalement, de nos illusions. La lecture de ce livre, Les Boules, provoque des éclats de rire quasi immédiats, parce qu'il y a une efficacité narrative mise en scène avec une très grande simplicité, avec une base de gaufrier composé de 4, parfois 9 images. Et donc, cette régularité va servir aussi pleinement ce propos. Le dessin d'Antoine Bréda est précis, efficace, représente vraiment les scènes, le lecteur y plonge, s'y trouve très vite à l'aise, profite de chacun des dialogues et va finalement être parmi ces acteurs et cette réalisatrice qui tourne ce film, on peut le dire, un petit peu incroyable. Je suis pas sûr qu'il ait un très grand succès dans les salles, mais c'était un peu un film essentiel à faire. La mise en couleur apporte également la même qualité de parti pris. Et Les Boules est un livre que j'avais depuis longtemps envie de présenter avec son auteur lui-même. Nous sommes donc avec Antoine Bréda qui va passer et nous permettre de nous accompagner dans cette écriture d'une sorte de façon joyeuse de brocarder la série Z. Bonjour Antoine Bréda.
Bonjour.
Alors, comment est venue l'idée de ce livre, Les Boules ?
Alors déjà, vous le présentez très bien. Merci beaucoup. Et l'idée, en fait, c'est que j'avais réalisé les premières planches dans un atelier qu'on avait avec des amis. Et l'histoire est venue au fur et à mesure, en fait. J'ai pas eu un fil conducteur tout de suite. Donc oui, j'avais réalisé les 3 premières planches. Comme ça, sans savoir où ça allait, puis c'est en écrivant le scénario et en réalisant le découpage que l'histoire s'est écrite un peu d'elle-même, en fait. Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça représente, l'écriture d'un tel scénario, Antoine Bréda ? Vous avez fonctionné comment ? Vous écrivez et vous dessinez en même temps ? Vous avez une suite dialoguée que vous mettez en scène, en image ?
Alors, j'avais une page et demie de l'histoire, de ce qui allait se passer, donc je savais le cheminement. Par contre, pour comment ça se passe, le récit, c'est vraiment au moment même, en fait. Je faisais le découpage le matin, l'après-midi, je réalisais les planches. Et pour le dialogue, j'ai eu la chance, à cet album-là, de le réaliser en atelier. Et c'est en rigolant, du coup, en s'échangeant, les phrases qui filent et tout ça, et plein d'idées sont arrivées comme ça, en fait, sur le moment même. Donc c'est très... c'est peu réfléchi, c'est très instinctif, en fait, celui-ci, comme écriture.
Antoine Bréda, comment on conserve ce principe de... Pas d'improvisation, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas de quelque chose de peu réfléchi jusqu'au bout. Parce que le lecteur, on n'a pas vraiment cette sensation.
Oui, mais ça c'était grâce au fil conducteur. Comme je vous l'ai dit, j'avais une page et demie de scène. Je savais dans quel ordre je devais que telle chose devait arriver. C'était le comment, en fait, devait arriver qui est instinctif.
Alors, les dialogues, par exemple, et notamment les personnages, le personnage d'Élise qui ne joue pas dans le film, qui est la compagne d'Henri, qui est la compagne, je ne sais plus son prénom, je crois que c'est Stéphane, qui est donc l'acteur principal du film, et qui...
C'est Fred.
C'est Fred, c'est ça. Mais oui, je l'ai en plus sous les yeux. Vous voyez, des fois, il y a des émotions comme ça qui vous chamboulent. Est-ce que elle est arrivée tout de suite? Est-ce que tout était déjà mûr dans votre esprit, Antoine Bréda?
Elle est arrivée tout de suite, oui, parce qu'elle arrive dans les 10 premières pages, même pas la troisième. Attendez, je l'ai aussi sous les yeux. Hein.
C'est parfait.
La troisième page, elle y est.
Oui, oui. Alors, je pensais dans l'écriture, parce que je trouve qu'elle a un rôle de contrepoint très, très efficace au niveau du récit.
Même, je pense même que sans elle, en fait, le récit ne se lirait pas de la même manière. En fait, elle remet les pieds sur terre tout le temps. Elle est le côté terre à terre, en fait, de l'histoire. C'est même elle qui a le plus raison, je pense, au final, dans l'histoire.
Comment cela? Elle aurait plus raison?
Raison dans le sens, c'est elle qui est la plus sensée, la plus réaliste. Disons que réaliser un film comme Anne et Fred le font, faut quand même être un peu fou, je pense. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Bah alors, c'est presque un grand débat, parce que c'est vrai qu'on a facilement tendance à brocarder les séries Z, mais on a des inconditionnels. Et il y a presque une sorte de candeur et de naïveté à l'intérieur de ces films qui est très touchante.
Ah oui, ben moi, j'adore ça. Donc c'est en ça aussi, en fait, que c'est très vite arrivé. Enfin, c'est les premières pages, en fait. Hein. C'est, j'aime ça. J'adore ces films-là et voilà.
Alors, pourquoi avoir choisi de les mettre en scène? Quelle est la proximité et quel le lien faites-vous avec cette narration en image qu'est la bande dessinée?
Ah, c'est une très belle question. Pourquoi raconter le nanar à travers la bande dessinée? C'est ça que vous vous demandez?
C'est ça, ça revient à ça.
Oui. Alors en fait, quand j'ai réalisé, quand je faisais les planches, la question en fait sous-jacente que j'avais, c'était qu'est-ce qu'on fait des rêves des personnes qui nous quittent. Donc moi, j'ai l'exemple de mon père en fait qui est décédé quand j'étais très jeune, et l'un de ses rêves c'était devenir dessinateur, ce qui m'a nourri en fait toute ma vie. Voilà, il y avait ses dessins qui étaient accrochés. Et tout ça, et c'est pour ça, je pense, en partie, que j'ai continué le dessin. Et ici, c'est ça que j'ai voulu raconter. Donc, pas au premier degré, mais qu'est-ce qu'on fait quand l'un de nous a un rêve et qu'il ne la réalise pas de son vivant. Et voilà, un rêve, ça peut être tout. Hein. Ça, c'est un scénario de nanar, c'est apprendre à jouer au golf, c'est réussir à faire un 300 mètres, c'est en courant. Voilà, ça peut être tout et plein de choses. Donc, moi, j'ai pas vraiment de réponse à pourquoi le nanar. Le nanar, parce que j'aime ça. Et la question sous-jacente, en fait, que je m'étais posée tout le long de l'album, c'est qu'est-ce qu'on fait des rêves des autres, en fait. Voilà, c'était pour ça.
Alors, il y a dans votre récit, finalement, des personnages. Donc les protagonistes de l'histoire, qui sont acteurs, compagnes d'acteurs, réalisatrices. Le doute est quand même très important dans cet ensemble. Rien ne paraît simple dans la réalisation. Vous êtes d'accord avec ça, Antoine Bréda?
Ah ben oui, oui, je suis composé de doutes en fait. Tout ce que je fais est un doute, comme beaucoup de personnes, comme toutes les personnes, je pense. Et il est normal, du coup, de le ressentir dans l'album. Vous doutez jamais?
Si. Moi, j'essaie que ce doute soit pas paralysant.
Ouais, mais oui, c'est ça. Et c'est un enjeu, en fait, c'est un conflit de tous les jours.
Ce que je vous propose, c'est qu'on reparle, mais en rajoutant la dimension du dessin de votre livre « Les boules » après le deuxième choix musical de la programmation. À tout de suite.
D'accord, à tout de suite. On the radio back in 86,
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Antoine Bréda pour parler de son livre Les Boules. Antoine Bréda, est-ce que la façon de d'écrire et de dessiner votre livre, est-ce que vous aviez rapidement défini les différentes formes graphiques? Il y a des variations sur la mise en couleur, la façon de traiter à la fois les scènes réelles, les scènes de tournage, les scènes de la vie quotidienne. Comment s'est mis en place cette codification de l'écriture tout au long du livre?
Alors, j'ai une petite question. Est-ce qu'on parle du dessin ou de la manière de raconter le découpage?
Alors, c'est un ensemble. J'aimerais qu'on puisse aborder. Alors, on peut commencer par la partie dessin, parce que c'est un peu la plus immédiate. Mais il y aura aussi les mêmes questions sur la mise en scène, avec les gestions du temps du récit, avec ces séquences où on a une unité de cadrage et de temps, avec des doubles pages particulières. Voilà, c'est un peu toute cette cuisine qui m'intéresse et dont j'aimerais qu'on puisse parler.
D'accord. Mais pour le dessin, j'ai pas eu de questionnement fondamental. En fait, c'est un dessin qui raconte. C'est mon dessin de la vie de tous les jours. En fait, c'est un dessin dans lequel il m'arrive parfois de me perdre et de passer plusieurs heures sans me rendre compte du temps qui passe sur des détails, sur les plis des vêtements. Par exemple, ça, j'adore ça. Je me perds en plis des vêtements tout le temps. Et pour la couleur, ça c'est vraiment des références du coup à toute la bande dessinée italienne pour adultes des années 60-70. Donc des couleurs très flash, unies en aplats. Voilà, pour ce qui concerne le dessin.
Et sur la partie, donc par exemple, l'utilisation des dégradés sur les scènes du film, et il y en a à plusieurs reprises, où les scènes du tournage, comme celle où on est sur la tour en pleine ville et il faut la recouvrir d'aluminium qui donne lieu à une rencontre avec la police assez croustillante.
Mais ça, la tour, c'est une tour qu'il y a ici à Tournai, en Belgique. Et on a calculé avec des amis, il faudrait 3500 mètres de papier aluminium pour la recouvrir. Donc ça m'avait fait rire de le mettre dans l'histoire. Voilà. Pourquoi les dégradés? Parce que je trouve que les dégradés ont ce côté un peu cheap, mais dans la bonne chose. Ça fait un peu, je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà.
Comment ça se passe avec les regards de vos personnages? Parce qu'on est vraiment sur deux petits points très légers, mais qui sont placés. Comment les dessinez-vous? À quel moment vous savez que le dessin est juste? Je vous embête.
Je me pose pas la question, en fait, quand je réalise les visages. C'est très instinctif, en fait, c'est sur le découpage. Très peu, voire pas, sur l'étape crayonnée, en fait. Donc j'encre presque directement sur mon découpage. Donc c'est très instinctif, en fait. C'est mis, c'est placé, c'est bon, quoi.
Comment avez-vous... Est-ce que vous avez relu vos dialogues une fois l'ensemble des pages en place? Quel rapport avez-vous eu sur l'ensemble de votre histoire? Est-ce que vous avez repris des choses, refait des cases? Comment ça se passe pour vous?
Pour les dialogues, je vais prendre l'exemple de quand Anne sort de la voiture après... l'une des dernières scènes filmées, où elle commence à s'énerver, elle dit « je veux des noms de rues, de villes, de pays, de continents, le nord de Sylm ». Ça, je demande pardon à ma coloc, hein, mais je le jouais pendant 2 heures dans le salon, à crier des phrases à tue-tête, à en noter quelques-unes, à en crier des centaines, pour garder que celles que je voulais garder. Et c'était quoi le reste de la question? Excusez-moi, je parle aussi là.
Non, mais c'était ça. C'était exactement ça. C'était sur cette vision d'ensemble. Si une fois si vous aviez réécrit des choses, alors manifestement, elles ont été très travaillées avant.
Oui, il y a une scène que j'ai retravaillée, du coup, celle-ci où Anne sort de la voiture. J'avais proposé autre chose à l'éditeur et c'est la seule scène qu'on a retravaillée. Et finalement, on a bien fait parce que je pense que c'est l'un des moments forts de l'album. C'est le moment le plus puissant. Et c'est vraiment la seule qu'on a retravaillée. Et j'en suis très content de l'avoir retravaillée.
Comment se passe la relation avec votre éditeur? Comment vous concevez le travail d'un éditeur, par exemple? Tous les auteurs n'ont pas les mêmes envies. Il y en a qui veulent absolument pas qu'un éditeur puisse intervenir. D'autres laissent cette place.
Non, Antoine Breda. Pense que c'est un éditeur où la conversation est ouverte. Et c'est jamais des noms définitifs, c'est jamais des oui non plus définitifs. Je me suis senti très libre à travailler avec ces pièces auteurs. Je me sens encore très libre parce que je travaille encore avec eux pour sortir un deuxième album chez eux. Alors après, moi, je la sens... alors vous avez pu le remarquer, je regarde jamais mes mails, assez distante, parce que je réponds pas à mes mails, mais très bien. Voilà.
Quel dessinateur êtes-vous, Antoine Breda? Comment ça se passe sur votre planche à dessin, votre table à dessin?
Dessinateur...
À l'énergie, tendu...
Non, très détendu, mais casanier. Souvent, je mets de la musique et je travaille du matin au soir. Malheureusement, j'ai d'autres boulots, donc je peux pas le faire tout le temps, mais voilà, j'aime ça. J'aime rester chez moi avec mon café, mes chats et la musique en fond.
Alors, quelle est l'ambiance sonore de votre atelier?
Alors, je m'en excuse encore une fois à mes anciens amis du dernier atelier où on avait. C'est très hétéroclite, donc autant de Paul Pena, comme on vient d'entendre, que de Dalida, que... Voilà, je suis un énorme fan de Dalida, j'écoute beaucoup Dalida. Mais surtout, voilà, John, comme on a entendu avant Paul Pena, voilà, c'est très hétéroclite, de bande-son de films, de western italien, de... Voilà.
Alors, vous entendre parler de cette colocation, Antoine Breda, vous n'avez pas envie de la raconter, de la mettre en scène? Parce que ça peut être assez réjouissant.
Oui, en fait, c'était un projet qu'on a eu avec des amis pendant 3 ans. On avait une galerie nos ateliers au-dessus et on était la moitié à vivre encore par-dessus. Donc c'était plus qu'une colocation atelier, c'était 3 ans de vie en fait collectif à temps plein. C'était vraiment chouette. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à la mettre en scène. Je vais leur proposer un album à du coup 12 mains.
Ouh, on a hâte. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que représente un atelier dans votre création? Parce que c'est pas souvent que les auteurs parlent vraiment de cela. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette création en atelier?
Ouais. C'est une énorme différence de travailler seul ou en atelier. Voilà. Il y a des jours où on se réveille, on se dit, oh là là, je peux travailler dans ma BD de 8 à 11 heures et après je dois pas repartir au boulot. Quand on travaille de chez soi, c'est plus dur de se mettre au boulot. On lambine un petit peu. Quand on travaille en atelier, ben voilà, on voit les autres travailler, écouter de la musique, rigoler, boire un café. C'est beaucoup de motivation, en fait, de travailler en équipe. Voilà.
Antoine Breda, vous pouvez nous donner quelques indications sur ce futur projet ou c'est encore trop tôt?
Non, mais non, c'est bien avancé, donc c'est pas trop tôt. Alors ici, on n'est pas sur une histoire aussi absurde avec des glorioles comme pouvait y avoir dans les boules. C'est l'histoire de deux inadaptés sociaux, casaniers chez eux, qui vont partir de Bruxelles jusqu'aux Ardennes. Et à la place de leur prendre 3 heures comme ça devrait leur prendre, je leur prends une semaine. Et du coup, voilà. C'est un road trip de deux inadaptés sociaux.
Merci beaucoup Antoine Breda pour vos réponses et de s'être prêté à cet entretien. Je rappelle les références de votre livre. Donc, Les Boules, c'est un livre de 96 pages qui est publié par les éditions 6 pieds sous terre et son prix est de 16 euros. Et bien, très bonne continuation et puis on sera au rendez-vous pour le prochain.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir Antoine Breda.
Au revoir. Bon après-midi.
Merci. Alors, pour terminer cette émission, je voudrais vous présenter « Je suis un Américain ». Donc, on est toujours dans cette façon dont les auteurs s'approprient les codes du langage de la bande dessinée. Alors, d'où on part ? Très facilement, vous l'avez repéré quand vous lisez un album, une série, un roman graphique, vous pouvez avoir certains textes, certains récitatifs qui vont nous dire pendant ce temps-là, 3 jours plus tard, 5 ans plus tard, une façon d'organiser le temps dans la bande dessinée. Vous avez le flashback où on a une variation graphique qui va nous rappeler que on est dans un moment du passé. Alors, il y a des codes qui sont maintenant quasi des stéréotypes, des institutions, et tout l'enjeu de la bande dessinée, c'est que les auteurs s'approprient ces codes en face des variations, les personnalisent et explorent de nouvelles façons de raconter, des nouvelles façons même de représenter. Je suis américain, je suis un américain est un livre de Guillaume Chauchat, qui est donc un auteur qui est aussi enseignant à la Haute École des Arts du Rhin et qui a plusieurs albums, plusieurs livres pour adultes et il explore avec Je suis un américain ces espaces de la narration où on est beaucoup moins directif dans la lecture, où on va chercher à ce que les récits se composent, fassent sens dans la lecture et permettent au lecteur d'accéder à d'autres façons d'écrire les sentiments, d'accéder à des nuances beaucoup plus importante que habituellement ou lorsqu'on n'est pas dans cette créativité, eh bien on peut avoir un récit relativement fade sans aucune surprise. Avec Je suis un Américain, dès la couverture, vous savez que le livre ne sera pas comme les autres. En fait, Guillaume Chauchat va utiliser la bande dessinée pour raconter l'histoire de Jean et puis celle de Jen et de Janine, et sans poser de façon facile. Bon, voilà, bah ça c'est Jean, ça c'est Janine, ça c'est Jean à tel moment, ça c'est Janine à tel autre. Et donc il va beaucoup jouer sur la construction même du récit, sur un rapport au temps qui va être différencié de façon très précise et que le lecteur va organisé dans sa lecture et va comprendre que telle forme graphique va être associée à telle temporalité, telle forme graphique va être associée à une dimension rêvée, ou au contraire, on va se retrouver avec des scènes où on a 2 images par page et une distance entre le texte et l'image qui vont ouvrir le récit sur une autre dimension, comme si eh bien, les personnages ne peuvent pas tout maîtriser et certains éléments leur échappent. À chaque fois, on a des passages entre le rêve où on a par exemple à un moment le personnage de Jean qui s'imagine jouer au baseball, qui se rêve en tant que sportif et comme frappeur et qui va s'imaginer à un moment merveilleux, c'est un rêve, et puis bah, il va conclure que même dans les rêves, je suis nul. À chaque fois, le livre a une ampleur de 124 pages et va permettre ainsi à Guillaume Chauchat de composer cette histoire de Jean qui rêve, qui se rêve en américain, de Jeannine qui va être très sensible à la culture française, de sa mère, donc Jeanne, qui va elle aussi être très imprégnée, elle est traductrice de cette culture, et Jeannine va faire le voyage vers Paris pour essayer de retrouver quelques-unes de ces traces qu'il pouvait y avoir avec Jean. C'est absolument étonnant parce que la façon dont les personnages se composent, prennent une épaisseur, une intensité, n'a absolument rien d'habituel. C'est là où le projet narratif de Guillaume Chaucha réussit. Il est et il nous met devant une forme de déstabilisation, c'est-à-dire que dès le départ, il faut qu'on accepte, et c'est le valable pour n'importe quelle lecture, quels sont les partis pris de l'auteur. C'est évidemment beaucoup plus facile si on a cette sensibilité au projet narratif, parce que c'est un peu ce qu'on recherche des auteurs qui vont nous amener à des endroits où on n'a pas du tout l'habitude d'y être, on n'y est peut-être même jamais allé. Et donc, on construit et on intègre ces partis pris. Il va falloir que, souvent quelques pages, alors là pour Guillaume Chaucha, il va complexifier la situation. Il nous faudra plusieurs séquences pour nous sentir pleinement dans ce récit. Mais en tout cas, c'est vraiment en une maîtrise d'écriture du début à la fin qu'il va composer cette histoire entre ces trois personnages, Jean, Jane et Jeannine. Puis il y a le trait. Le trait de Guillaume Chaucha est un trait épais, appuyé, qui va donner forcément une représentation différente, où on est souvent, pour les dessinateurs, dans cette recherche d'un trait des plus précis, qui va épouser la gestuelle de chacun des personnages, la différencier, chercher les expressions des visages. Là, Guillaume Chaucha pose de façon affirmée, avec ce trait noir épais, les différentes scènes, aussi bien les moments de rêve que de réalité, de distance avec le réel, et il va simplifier la représentation tout en nous permettant de nous sentir pleinement à l'aise dans les différentes scènes. On a très peu de regards, quasiment aucun, et pourtant, il ne manque absolument pas. Le dialogue apporte sa force et sa présence. C'est un dialogue parfois bilingue, puisque Jane et Jeannine sont américaines, et elles vont parler en anglais, et ça sera traduit dans chaque case. Là aussi, c'est un parti pris qui a son efficacité pleinement dans le récit, puisque Jane est traductrice. Il y a, en plus de ce trait très noir, il y a le choix de la couleur, où on va avoir uniquement trois couleurs primaires qui vont être présente dans le livre, pas systématiquement, mais par exemple, il y a des pages de rêve qui sont avec ces couleurs, ces trois couleurs primaires qui peuvent être présents en une teinte dans une case. Le cyan, le jaune et le magenta qui seront donc là et qui vont donner aussi des indications de mise en scène et de précision sur le récit. à l'intérieur même de ces séquences de pages avec deux images par page où on est sur des sortes de pensées, de digression, de délire. Là, le ver va s'inviter. C'est un livre qui est étonnant et qui, en tout cas, s'installe et agrippe le lecteur par la puissance de ses partis pris. Ben, c'est grâce au choix des couleurs primaires, en abandonnant tout ce que peut être la mise en couleur, le choix d'un trait appuyé et intense, abandonnant tous les effets graphiques habituels, et parallèlement, en composant un récit avec un ensemble de formes narratives, de situations et de mise en scène qui permettent à Guillaume Chauchat de donner une épaisseur aux différents protagonistes de cette histoire. Et cette dimension, cette façon de jouer entre le rêve et la réalité est tout à fait séduisante. Il y a, en tout cas, dans ce livre, beaucoup de contemporanéité. Ça, c'est un mot, je me suis préparé longtemps. Donc, je suis un Américain, le dernier livre de Guillaume Chauchat. C'est un livre qui est publié par les éditions 2024. C'est 2024, c'est un éditeur qui est également qui a été créé avec deux anciens étudiants de la Haute École des Arts du Rhin, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, et qui ont un catalogue qui est composé aussi de ces livres qui ont une forme très contemporaine, et c'est un éditeur à suivre. Je vous rappelle les références. Donc, Je suis un Américain de Guillaume Chauchat est un livre de 224 pages. Son prix est de 26 euros. Il a été soutenu par le Centre National du Livre. C'est important parce qu'il sert vraiment à ça. Et son premier tirage est de 2000 exemplaires. Merci Fabien pour cette émission. On se retrouve jeudi prochain. À bientôt.
Écriture dessinée.